Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Vingegaard derrière qui lance ses hostilités à nouveau. Ah, Pogacar a plus de mal.
Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver?
Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette. Il est en difficulté, Pogacar.
Il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même.
Il est à la dérive, Pogacar.
Ah, il s'accroche, il s'accroche.
À gauche, à droite. On l'a jamais vu comme ça.
Il est mort? Je ne crois pas. Il est seulement assommé.
Tadej Pogacar, grand perdant du jour. On n'imaginait pas un tel débours pour lui dans cette étape du Granon.
Je reviendrai.
Le Pogacar. Casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd, et il baisse la tête sur la ligne.
Et nous accueillons pour ce débat la voix du Tour de France. Il vous accompagne toutes les après-midi de ce mois de juillet. Christophe Cessieux, notre GG, est avec nous. Salut Christophe.
Moi aussi un sacré mangeur de graines, hein, comme tu le sais, j'y sais, hein.
Évidemment. Un petit peu comme Benoît Paire, ça fait deux jours que tu n'as pas bu et tu es en pleine
non,
cure actuellement.
Je ne pourrais même pas dire ça.
Non, même pas.
Oui, on savait.
Oui, forcément, il y a eu hier soir, entre-temps. Christophe, merci d'être avec nous. Et évidemment, tu vas participer à notre débat. Alors, le 13 juillet 2022 restera dans l'histoire du Tour de France, un 13 juillet qui aura vu le double vainqueur de la Grande Boucle, Tadej Pogacar, craquer pour la première fois. Lui, l'archi-favori, l'invincible en apparence, a connu une terrible désillusion dans le col du Granon. Il reste désormais une semaine au Slovène pour reprendre les 2 minutes 22 qui le séparent de la nouvelle star, Jonas Vingegaard. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Pogacar peut-il encore renverser le Tour? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui.
Christophe Cessieux.
Non.
Marie Martineau.
C'est un non pour moi aussi.
Olivier Giraud.
Il peut, mais ça va être compliqué.
Ok, j'ai deux oui, j'ai deux non, si je comprends bien. On va écouter le principal intéressé quand même. Tadej Pogacar, après l'étape de l'Alpe d'Huez, après les Alpes. Voici ce qu'il en pense.
I mean, they are strong, they are really strong. But,
ils sont très forts. Vingegaard est l'un des meilleurs grimpeurs, mais je peux le défier. J'essaierai de l'attaquer un jour, davantage qu'aujourd'hui, et nous verrons. Alors oui, ils sont très forts, mais ils ne sont pas imbattables.
They are strong, but they are not unbeatable.
Pogacar peut-il renverser le Tour? Le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, le 32-16 évidemment, pour participer à ce débat. Christophe, on débute avec toi. Pour toi, c'est non. Toi qui es au contact des coureurs, tu entends Pogacar. C'est de la com. Il y croit vraiment. Comment tu le sens?
Ah, je pense qu'il y croit vraiment parce que c'est un garçon qui ne doute pas et depuis le début de sa carrière, il n'a jamais été vraiment mis en difficulté. Il a remporté son premier Tour de France il y a 2 ans. Il avait renversé la situation avec ce contre-la-montre dans la planche des belles filles où il s'était emparé du maillot jaune. Donc évidemment, il ne doute jamais, Pogacar. Mais là, on a senti quand même depuis 48 heures que son regard était un peu moins confiant que les jours précédents parce qu'il se rend compte et notamment il s'est rendu compte dans l'ascension de l'Alpe d'Huez que ce serait très difficile de lâcher Vingegaard qui s'accroche à sa roue lorsque celui-ci démarre et il lui reste assez peu d'occasions finalement de renverser Vingegaard. Il y aura peut-être quelques secondes possibles à prendre aujourd'hui dans l'ascension de Mende. Il y en aura certainement un peu plus dans les deux étapes des Pyrénées-Péragudes et Otacam qui auront lieu mercredi et jeudi. Et puis il restera le dernier contre-la-montre samedi, 40 km. Alors là on nous dit que Pogacar est capable de mettre une tôle à Vingegaard. Mais quand on regarde les chronos et les oppositions entre les deux hommes, on se rend compte qu'ils sont à peu près du même niveau dans le contre-la-montre. On se souvient par exemple que l'an dernier à Laval, le premier contre-la-montre du Tour de France, Pogacar l'avait emporté avec 27 secondes d'avance. Énorme. Eh bien, rendez-vous compte, lors du dernier contre-la-montre à Saint-Émilion, l'avant-dernière étape du Tour de France, c'est Vingegaard qui s'était imposé avec 25 secondes d'avance. Donc vous voyez, les deux hommes sont quasiment égaux dans l'exercice du chrono. Donc c'est pas là qui lui reprendra les 2 minutes 22, il va falloir qu'il attaque dans les Pyrénées, à Péragude et à Otacam. Mais avec l'équipe dont bénéficie Vingegaard, moi je pense que ce sera très difficile, sinon chose impossible pour Pogacar.
Ok, tu n'y crois pas. Qui y croit? Simon Dutin, il y croit un petit peu plus que tout le monde dans le studio RMC. Simon.
Bah évidemment, on y croit. Il y a encore avant qu'il prenne son éclat dans le Granon, on se disait il est imbattable, il a déjà gagné le Tour. Les questions c'était a-t-il déjà écrasé le Tour? Il dégageait une impression de sérénité, de domination totale. Donc là, effectivement, il y a eu une défaillance. Et alors ça y est, oh, quel tocard. Alors ce Pogacar, jamais reviendra sur Vingegaard. Jamais il battra le Danois, jamais il battra Vingegaard. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais jamais il arrivera. Et c'est Pogacar, c'est pas. Non, mais c'est le coureur ultime. Il domine, il gagne sur tous les terrains. Il est fâché. Faut pas oublier ça. L'ego du champion, il est double tenant du titre. Alors ok, il a essayé. C'est vrai que Vingegaard a jamais paru aussi fort en montagne. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives dans la deuxième montée de l'Alpe de lâcher Vingegaard. C'est vrai que ça va pas. Moi, c'est pas tant en haute montagne. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer aujourd'hui à Mende, hein, dans la côte de la Croix-Neuve. Je t'entendais en parler hier, Christophe. C'est la montée Laurent Jalabert. Il a des côtés à la Jalabert. Vingegaard, c'est un danseur étoile, quoi, un danseur de ballet. Il est taillé pour la montagne. Effectivement, il vole en montagne dès que le terrain grimpe. Pogacar, il gagne sur tous les terrains. Il a battu Van Aert à Tirreno Adriatico l'an dernier. Il a battu Vingegaard à Tirreno de cette année. Il est meilleur que lui en chrono. Il y a le chrono la veille de le chrono de Rocamadour. Là, il y a 40 bornes. Ça m'étonnerait que Vingegaard puisse le battre ou rester au contact. Il y a effectivement ces deux étapes de Peyragudes et Hautacam. Mais avant, même à Foix, c'est mardi, je crois. Il y a deux cols de première catégorie. Il y a de la descente derrière. Je sais pas. Il peut attaquer. Moi, je le vois bien. De toute façon, sur l'ego, sur son mental, oui, sur le ressentiment, il a dit moi dans le granon, j'ai fait des erreurs, je les ai identifiées. Moi, je me méfie de Pogacar.
Ok, plutôt non pour toi. Il ne peut pas renverser le tour. Marie Martineau.
Moi, je crois pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs. Il s'est fait attaquer, re-attaquer, re-attaquer. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il est certes monstrueux, mais il n'est pas non plus. Il peut pas être seul face à un seul homme face à toute une équipe.
Oui, mais on le pensait. Il y a encore.
On pensait pas que son équipe allait être aussi défaillante que ça. Et puis on pensait peut-être pas que la jumbo était si énorme. Ce qui s'est passé mardi, c'est que ça a ouvert une porte à deux choses. Ok, il a pris un éclat. Donc au chrono, c'est quand même compliqué. Aller remonter 2 minutes 20, ça va quand même pas être simple. Même si, il le dit, il y a quand même un peu de place et il y a des étapes à venir. Mais il a aussi ouvert la brèche de il est battable. Et il y a tout un peloton qui a les crocs et plusieurs équipes et il roule dessus. Et donc il a débloqué quelque chose de l'ordre du psychologique aussi, tu vois, dans ce peloton. Et ça change la donne. Après, il a des équipiers de dingue. Oublions pas quand même qu'il a Roglic comme équipier, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est fou furieux. D'avoir autant de qualité autour pour t'amener au bout. Donc Vingegaard, je sais même plus comment il faut l'appeler. En attendant, il a pas l'air très facilement influençable, il a pas l'air très facilement attaquable. On a bien vu que Poggi a essayé de l'attaquer là dans la montée de l'Alpe d'Huez. Ça ne donne rien, alors que les attaques habituellement de Pogacar, c'est incontrable. Et là, c'était juste il a tenté mais ça fonctionnait pas. Donc je le vois très esselé et même si on sait et j'étais la première dimanche dernier à dire c'est vous dire qu'il était imbattable Pogacar. Donc je ravale mes arguments et au vu de ce qui s'est passé, je me dis que ça va plus être très aussi simple que ça, quoi.
Ok, la psychologie en tout cas, il a ouvert quelque chose Pogacar avec cette première défaillance et c'est la première fois qu'on assiste à ça sur le Tour de France, même dans sa carrière à ce point-là. Olivier Giraud.
On se posait la question au début du tour. Quand on comparait les deux équipes, on disait la Jumbo, c'est beaucoup plus costaud. Mais on avait mis un bémol sur la Jumbo parce que on se disait c'est une équipe avec 3 leaders potentiels. À un moment, les mecs vont pas s'entendre. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer leur carte. Et finalement, le leader, il s'est décidé de lui-même. Et par contre, on n'aurait jamais pensé, et j'aurais jamais pensé que un mec comme Roglic se sacrifierait pour que Vingegaard soit devant. Et que là, ce que tu vois, c'est que Pogacar, lui, il avait une équipe un peu plus faible, mais une équipe solide. Il y en a deux qui tombent pour le Covid. Donc déjà, il se retrouve tout seul. On se dit qu'il peut tout faire tout seul, mais de ce que j'ai vu hier, Vingegaard, il est vraiment très très bien entouré. Très très bien entouré. Et là, pour que Pogacar mette un éclat à Vingegaard et à toute son équipe, parce que c'est pas seulement Vingegaard qui est en face de lui, et ben va falloir qu'il choisisse les très 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 bons coups pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir mettre sous pression cette équipe. Et que aujourd'hui, il l'observe, il le cadre et il est un petit peu tout seul aujourd'hui.
Un petit peu tout seul. Est-ce que tu as senti, et je reviens Simon vers toi, Christophe, est-ce que tu as senti chez lui plus qu'une force et une impression de puissance, quelqu'un qui a la rage, Pogacar, quelqu'un qui veut laver l'affront?
Alors, il a la rage, mais tu sais, comme depuis le début de sa carrière, il garde toujours ce sourire de jeune adolescent. Même lorsqu'il a été battu l'autre jour dans le col du Granon, quelques secondes après, il avait le sourire, il était sur le podium, il recevait le maillot blanc. Donc, on n'arrive pas à déceler vraiment la rage au fond de lui. C'est pas un Armstrong, c'est même pas un Froome. Voilà, c'est un garçon qui s'amuse sur le vélo. Alors, évidemment qu'il a été touché dans son orgueil, parce que ça ne lui était jamais arrivé de se prendre une telle correction, finalement. 2 minutes 20, quand même. Pogacar, non mais... Jamais il n'a connu ça de sa carrière. Alors, je pense qu'au fond de lui, il est très déterminé, mais il ne le montre pas. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais pour lui, le vélo, c'est un amusement. Hein. Il le prend au sérieux, évidemment, mais il n'a jamais la hargne que pourraient montrer les cannibales du passé, par exemple.
Christophe, encore une fois, moi, j'y reviens. Dans le Granon, c'est pas l'écart de niveau qui existe entre Vingegaard et Pogacar en montagne qu'on a vu. On a clairement vu une défaillance. Ça arrive. Oui, c'était la preuve. Fringale, c'est la preuve que ça arrive, évidemment.
Oui, mais Simon, je suis d'accord avec toi. Simon, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses que Vingegaard, lui aussi, va connaître la fringale? Parce qu'il n'y a que comme ça que Pogacar peut battre Vingegaard.
Ouais. Moi, Christophe, après, je ne connais pas.
Parce qu'autrement, dans les premières étapes du Tour de France, il ne lui a pris que quelques petites secondes.
Oui, mais...
Avant l'étape du Granon, il n'y avait que 39 secondes.
Et n'oublie pas le chrono. Moi, je ne connais pas.
Il lui a pris 26 secondes, je crois, dans les bonifications.
Oui.
Donc, s'il n'y a pas une défaillance de Vingegaard, Pogacar ne gagnera pas le Tour de France.
Moi, là où je ne suis pas d'accord, alors, je ne connais certainement pas assez le cycle. Pour pas dire des bêtises, mais il y a 40 bornes de chrono en fin de tour. Pour moi, Pogacar, il est largement
au-dessus. Capable de prendre 2 minutes sur un.
Non, je te parle pas, je te dis pas de 2 minutes 20, je te dis juste, je pense qu'il peut reprendre en
30 secondes, pas plus de 30 secondes.
Il peut lui prendre plus que ça.
Simon, pas plus de 30 secondes.
Mais parlons, moi écoute, effectivement, je fais un pari. Encore une fois, c'est pas Pogacar, va-t-il gagner le tour? Je te dis, je pense qu'il est capable de lui prendre au moins 1 minute sur 40 bornes. Il y a 1:30 à reprendre à Vingegaard. Je pense qu'il est capable de.
Vingegaard peut le perdre, que Pogacar peut le gagner finalement.
On ne sait pas trop, parce que moi je me souviens de la première victoire de Pogacar quand même. C'était sur un chrono où personne s'y attendait, personne ne s'attendait à ce qu'il reprenne. C'était sur la planche des Belles Filles avec ce chrono. Alors oui, c'était en montagne, c'est pas du tout le même dénivelé que pour ce chrono de ce Tour de France 2022. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il éclate à ce point-là, Primoz Roglic, et lui prenne le maillot jaune sur l'avant dernière étape.
C'est ce qui fait tout le sel en fait, et qui nous rend cette fin de Tour de France juste super excitante quand même, parce que justement tout peut encore arriver, même si ça se dessine d'une certaine manière. Ouais. Voilà,
sur le dernier, 25 secondes.
Il reste là-dessus, en tout cas sur ces 25 secondes. Il y a Alexandre qui nous dit via le direct studio, à l'instar de Lewis Hamilton, Pogacar a appris à perdre et ça peut faire très mal.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vais te dire honnêtement, moi je me suis pris à la course cette année parce qu'il y a un vrai suspense. Et que tout le monde a peur, hein. Tout le monde a peur d'attaquer, tout le monde a peur de craquer. Tu sais, tu prends l'interview de Gaudu qui était complètement effondré parce que lui pensait ne pas tenir et il s'est dit à la fin d'une montée, j'ai pas osé y aller, j'ai eu peur de craquer et qu'il aurait pu faire un meilleur temps.
J'ai pas assez confiance en moi.
Et donc là sur ce tour, ça se tient aussi. Moi, je le dis, l'équipe de Vingegaard est forte. Et elle le protège. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment, tout seul, à part jouer un gros coup ou une défaillance de Vingegaard, comment Pogacar va pouvoir l'enfumer.
Alors, la 14e étape, c'est aujourd'hui, à suivre l'intégral tour, à partir de 14h, comme tous les jours, évidemment, autour de Christophe Cessieux. Christophe, Saint-Etienne, Mende, deux questions. Déjà, est-ce qu'on peut voir une attaque des leaders sur cette montée Laurent Jalabert? Et puis, deuxième, est-ce qu'un Français peut enfin gagner sur ce Tour de France 2022?
On l'espère, évidemment, que les Français vont peut-être se mettre enfin à glaner des étapes. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que deux fois dans l'histoire du Tour de France où les Français n'ont remporté aucune étape. La dernière fois, c'était en 1999. Donc là, il va quand même falloir qu'il se mette à prendre les échappées et à essayer de jouer une étape de baroudeur. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura une course à deux étages, effectivement avec une échappée, et peut-être qu'elle peut aller au bout avec des Français dedans. Et ensuite, l'explication entre les cadors dans la montée Laurent Jalabert. 3 km de montée, c'est très court. Hein, ça va durer une dizaine de minutes.
À plus de 10%, hein, Christophe. Ça va tabasser.
10%, hein. 10%, oui, 10%. Mais enfin, dans l'Alpe d'Huez, et dans le Galibier, il y avait 10, il y avait plus que ça. Donc là, ça va durer 10 minutes. Donc s'il lui prend, si Pogacar réussit à prendre 4, 5 secondes à Vingegaard, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, et puis s'il termine l'étape en tête, il y aura les bonifications. Mais il lui prendra pas grand-chose aujourd'hui, et le Tour ne se retournera pas aujourd'hui. Peut-être dans les Pyrénées, mais pas aujourd'hui, ça, soyez-en sûr.
Merci beaucoup, mon cher Christophe. On te retrouve à partir de 14h dans l'Intégral Tour, avec toute la bande, évidemment, Jérôme Coppel, Cyril Guimard, Arnaud Souk sur la moto, et Pierre-Yves Leroux, 14h pour l'Intégral Tour.